Vous écoutez On lit pour vous.
Les nouvelles sorcières, spiritualité, féminisme et bien-être. Un texte de Myriane de Mers-Lemay, paru le 12 décembre 2024 dans la Gazette des femmes. Elle tire au tarot sur les réseaux sociaux, cueille des plantes pour concocter tisanes et élixirs ou se réunissent pour de petits rituels comme brûler des prières sur des morceaux de papier. Ces sorcières modernes et écoféministes sont les figures de proue d'une vague spirituelle en plein essor au Québec. Chaque année, un groupe de sorcières se rassemble autour d'une étoile de David tracée au sol. Elles apportent des collages symboliques destinés à éveiller l'inconscient que la maîtresse de cérémonie transforme en oracle écrit. De ces rencontres naît un calendrier lunaire conçu pour honorer les cycles naturels. La spiritualité permet d'être plus attentive à ce qui se passe dans la nature, explique Geneviève Sirois, herboriste et magicienne moderne. Comme je suis nature, la nature m'enseigne ce qui se passe dans mon corps, poursuit-elle, en faisant notamment référence au cycle menstruel et aux transitions saisonnières. Elle ponctue son quotidien de petits rituels, comme accueillir les saisons avec un feu, boire une tisane en pleine conscience ou cultiver la gratitude. Les personnes dans le monde de l'alimentation naturelle et vivante sont portées à se déployer, à s'épanouir, à avoir accès à plus de conscience, explique l'herboriste, qui a développé sa spiritualité en même temps qu'elle apprenait à connaître les plantes et changeait son alimentation. En santé holistique, on ne peut pas séparer le corps de la pensée, de la psychologie. Sa spiritualité fait partie d'un cheminement global de bien-être corporel et psychologique. Aujourd'hui, Geneviève Sirois vit dans une maison dans la forêt. Elle canalise l'énergie universelle, définie comme une force fondamentale qui sous-tend et interconnecte tout ce qui existe dans l'univers, et fait de courtes méditations plusieurs fois par jour. Sa vision de la spiritualité, enracinée dans la connexion à elle-même et à la nature, reflète celle d'une communauté plus large de sorcières contemporaines en quête d'équilibre et de guérison. Du bûcher à l'émancipation. Mais la spiritualité des sorcières modernes porte aussi, en filigrane, l'héritage d'une figure longtemps persécutée. Au XVIe et au XVIIe siècle, des accusations de sorcellerie ont mené des milliers de personnes sur le bûcher en Europe. La plupart étaient des femmes. Les mouvements féministes ou proto-féministes ont renversé cette figure de victime. Ils s'y sont associés et l'ont revendiqué afin que le patriarcat tombe, observe Vanessa Toupin-Lavallée, candidate au doctorat en sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, et membre du comité scientifique de l'exposition sorcière « De l'ombre à lumière » présentée en ce moment au musée Pointe-à-Calière à Montréal. La sorcière, autrefois persécutée, est ainsi devenue une figure rebelle en Occident, notamment adoptée par les personnes qui se sentent marginalisées, que ce soit en raison de leur genre, de leur orientation sexuelle ou de leur style de vie, observe la chercheuse. Dans les années 1970, de nouveaux mouvements religieux mélangeant tradition ancienne et contemporaine voient le jour. Parallèlement, la figure de la sorcière s'affirme comme icône écoféministe. Ce courant soutient que l'oppression des femmes et la dégradation de l'environnement sont interconnectées et résultent de systèmes patriarcaux et capitalistes. La pratique de la sorcellerie entretient un lien fort avec la nature. On va cueillir des herbes ou les cultiver, ramasser des roches. Cela peut être bénéfique aux personnes éco-anxieuses, croit Megan Bédard, chercheuse en études de la culture populaire à l'UQAM. De fait, la plupart des sorcières modernes sont des femmes éduquées, de classe moyenne ou aisée, issues de milieux urbains, observe Vanessa Toupin-Lavallée. La reconnexion spirituelle est, dans le fond, une reconnexion à soi et à la nature. La sorcière à l'ère du numérique. Sur les réseaux sociaux, la figure de la sorcière est devenue très populaire au cours des dernières années. Les contenus sur TikTok ou Instagram, associés au mot-clic « witch talk »,« spells » ou « witch esthétique », se comptent par millions. Les adeptes y transmettent des conseils pour choisir des cristaux ou concocter de l'eau de lune, supposément chargée d'énergie après avoir été exposée à la lumière de la pleine lune, ou encore des tutoriels pour construire son autel sacré, espace dédié au rituel. L'influenceuse Emmanuelle Bossé, alias Emma Bossé, se considère volontiers comme une sorcière moderne. Sur YouTube, elle compte 280 000 abonnés. Chaque mois, elle fait un tirage au tarot gratuit pour tous les signes astrologiques. Sa clientèle, majoritairement composée de femmes, vient chercher des réponses à des questions personnelles. Les gens me demandent des choses comme « Est-ce que je vais rencontrer l'amour prochainement ?» explique-t-elle. Cela les réconforte beaucoup. Ça leur redonne de l'espoir. Plusieurs femmes pratiquent seules et font part de leurs rituels sur Internet. D'autres adhèrent à la Wicca, une religion néo-païenne centrée sur la nature, la magie et la vénération du divin. Sans forcément s'identifier à la sorcellerie, plusieurs consomment des contenus comme le tarot ou l'astrologie. Historiquement, la sorcellerie sert à prédire le futur, à obtenir des réponses à des questions sur les relations amoureuses. Le travail et l'argent, commente Vanessa Toupin-Lavallée. Que ce soit dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance ou aujourd'hui, il y a toujours les mêmes préoccupations dans toutes les sociétés. Les boutiques dites « sorcières » témoignent également de cette quête de bien-être. On y trouve des sachets pour la relaxation, la guérison ou les relations, remarque la chercheuse. Derrière la pratique de la magie, il y a vraiment cette idée de recherche du bien-être spirituel, physique et mental. On est dans un narratif de guérison. De sa maison dans les bois, Geneviève Sirois partage la même vision. Il s'agit d'embrasser toutes les parts de soi, invite l'herboriste. Je pense que si chaque femme récupère sa pleine permission d'exister, d'agir et de contribuer, la face du monde va changer. C'était Les Nouvelles Sorcières, Spiritualité, Féminisme et Bien-être, un texte de Myriane Demers-Lemay, paru le 12 décembre 2024. Dans la Gazette des femmes.
L'argent comptant, une espèce en voie de disparition. Un texte d'Annabelle Cailloux paru le 4 janvier 2025 dans Le Devoir. Déjà 25 ans depuis l'an 2000, Le Devoir replonge dans un quart de siècle jalonné par des événements marquants et de nouvelles tendances qui façonnent encore notre société. Dans cet article, l'essor des paiements numériques et la disparition de la monnaie. Chaque week-end, c'est la même rengaine. Noémie Martin retire 20 $ à la banque. Les bras chargés de sacs de vêtements, elle file ensuite à la buanderie du coin. Elle sort son billet et l'insère maladroitement dans la machine à monnaie pour le transformer en petites pièces de 1 $ et de 25 cents. J'ai encore de la misère à les différencier, plaisante-t-elle à moitié, en fixant le butin dans ses mains avant de se diriger vers la première laveuse disponible. En quittant le cocon familial cet automne pour s'installer à Montréal, l'étudiante de 19 ans ne pensait pas que laver son linge deviendrait une telle épopée. Sortir pour faire mes lessives, ça va. Le problème, c'est surtout que je n'ai jamais de cash sur moi et malheureusement, ma buanderie n'est pas encore arrivée dans le monde moderne, lance-t-elle, sarcastique. Hormis sa nouvelle routine de lavage, elle pourrait compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où elle a dû payer en argent comptant. J'ai toujours utilisé mes cartes de crédit et de débit ou mon sel. Ça n'a aucun sens d'être obligé de payer en cash aujourd'hui. Avec le développement des modes de paiement numérique, l'usage du billet et de la monnaie a décliné à vitesse grand V ces dernières années dans les habitudes des consommateurs. En 2009, les transactions en argent comptant représentaient encore environ 54 % du volume total des transactions au Canada, selon les données de la Banque du Canada. En 2023, cette proportion atteignait à peine 20 %. Les transactions par carte de crédit sans contact, technologie connue sous le nom de PayPass, ont à l'inverse explosé, passant de 1 % du volume total des transactions en 2009 à 33 % en 2023. C'est aujourd'hui le moyen de paiement le plus utilisé par les Canadiens. Plus simple par carte. Les gens préfèrent payer par carte ou avec leur sel parce que c'est plus simple, plus rapide. Il suffit de taper sur la machine plutôt que de se mettre à compter son argent en espérant en avoir assez et ne pas devoir retirer au guichet, explique Philippe Goulet-Coulombe, professeur d'économie à l'UQAM. Selon lui, si la tendance était déjà là depuis le début des années 2000, elle n'a fait que s'accélérer avec la pandémie de COVID-19. Inquiet d'une transmission du virus par l'échange de monnaie et de billets, nombre de Canadiens ont naturellement délaissé ce moyen de paiement durant la crise sanitaire, lui préférant la technologie du PayPass. Beaucoup de commerces qui n'étaient pas encore passés au numérique ont ainsi dû se munir d'un terminal pour rassurer les consommateurs. Rares sont les endroits qui exigent encore de régler uniquement en argent comptant. C'est l'inverse même qui se produit. Des commerces et des restaurants refusent désormais l'argent liquide. C'est le cas de la chaîne David's Tea ou encore de la marque Jack and Jones. À Montréal, la pizzeria Fugazi, le marché Time Out, la foire alimentaire du centre Eaton ou encore le central au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine refusent aussi l'argent liquide. On sous-estime la complexité en comptabilité d'avoir du cash en magasin et de devoir compter sa caisse en début et en fin de journée. Ça demande du temps et une certaine compétence qui n'est pas donnée à tous, explique Damien Silès, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Ne pas avoir d'argent comptant en boutique évite aussi les risques de vol, selon lui. Vers la fin de la monnaie, la tendance est lourde. Je n'imagine pas un retour en arrière. On s'en va clairement vers une disparition de la monnaie, croit-il. Philippe Goulet-Coulombe abonde en ce sens. Tout le monde va au même endroit, mais la vitesse est différente d'un pays à l'autre. Il y a des pays dans le monde où la carte n'est pas encore acceptée pour les transactions quotidiennes. Et dans d'autres, comme la Suède, il y a encore moins d'argent comptant qui circule que chez nous. La monnaie va-t-elle complètement disparaître pour autant? On n'en aura plus un jour, mais ça peut prendre encore du temps, croit le professeur Goulet-Coulombe. Pourtant, d'après le dernier coup de sonde de la Banque du Canada, 80 % des Canadiens ne prévoient pas d'arrêter d'utiliser de l'argent comptant. Seulement 13 % ont déclaré ne déjà plus l'utiliser et près de 7 % y songent à court ou moyen terme. Dès que le système tombe en panne, c'est un désastre. On se retrouve complètement démuni, reconnaît Damien Silès. La technologie aura toujours des failles. C'est bien d'avoir toujours un peu d'argent comptant de côté, si jamais. Est-ce légal de refuser l'argent comptant? Réponse courte, oui. Aucune loi au Canada n'oblige un commerçant à accepter un mode de paiement plutôt qu'un autre. Si le commerçant avise très clairement le consommateur qu'il refuse l'argent comptant, c'est tout à fait légal, explique Alexandre Plourde, avocat et analyste à Option Consommateur. L'organisme déplore toutefois ce vide juridique depuis des années. Il souhaite que le gouvernement fédéral renforce sa loi sur la monnaie afin de forcer les entreprises à accepter l'argent comptant. Refuser l'argent comptant est une forme d'exclusion, fait valoir M. Plourde. Les personnes les plus défavorisées, les personnes à faible revenu ou les itinérants, par exemple, n'ont pas forcément accès à un compte bancaire et utilisent l'argent comptant. Il y a aussi des gens qui ont un compte, mais pas accès à une carte de crédit. On peut aussi penser aux aînés qui peuvent être moins habiles avec les technologies. Pour la majorité des commerces acceptant encore l'argent comptant, légiférer maintenant ne représenterait pas un grand fardeau, selon lui. Plus on attend que le refus du comptant se généralise, plus ce sera difficile de forcer les commerçants à l'accepter de nouveau. C'était « L'argent comptant, une espèce en voie de disparition », un texte d'Annabelle Caillou paru le 4 janvier 2025 dans Le Devoir.
Notre sonneur de mots. Un texte de Mario Girard paru le 18 janvier 2025 dans La Presse. Avant Stéphane Venn, les chanteurs québécois s'en remettaient beaucoup aux chansons américaines ou françaises. Mais quand ce géant est arrivé, tout a changé. Tanné d'être un auteur-compositeur-interprète ignoré sur disque et sur scène, il chantait devant une poignée de spectateurs, il a décidé d'offrir ses chansons à d'autres. D'abord à une chanteuse qui faisait son petit bonhomme de chemin dans les boîtes à chansons. Je vous parle de René Claude. Le premier disque auquel se greffe Stéphane Venn a été fait avec un certain François Dompierre. La jeune chanteuse pouvait-elle espérer mieux? Cela donnera « Il y eut un jour », paru en 1965. À cette époque, les petits jeunes, Stéphane Venn, François Dompierre, François Cousineau, Paul Baillargeon et Pierre F. Brault, tentent de détrôner les Neil Schottum, Paul de Margerie et Maurice Blackburn. Ainsi va la vie. Le disque paraît. Le succès est moyen. Quelques années plus tard, Stéphane Venn retrouve René Claude dans l'ascenseur de l'immeuble qu'il occupe. C'est le déclic. Et tout un. Elle monte à son appartement du centre-ville de Montréal. Elle gravite autour de son piano et de son cœur. Les deux se posent les questions suivantes. Qu'est-ce que la chanson québécoise au fond? Qu'est-ce qu'un hit? Pourquoi il faut un hit? Le tandem plonge tête baissée et décide de créer des chansons avec des sonorités et une poésie qui nous ressemble. La récolte est spectaculairement fertile. C'est notre fête aujourd'hui. Le tour de la terre, le début d'un temps nouveau, la rue de la montagne. Sais-tu que je t'aime depuis longtemps, tu trouveras la paix. Écoutez ces chansons. Elles sont parfaites. Une grande leçon d'écriture. Stéphane Venn prenait en charge avec une main de maître la musique, les paroles et la production. C'est comme ça que j'ai toujours voulu travailler, m'a-t-il déjà dit. En fait, il avait appris une chose importante des adaptations de chansons américaines qu'il faisait et qui lui rapportait 25 $ quand il était jeune. Il lui fallait trouver la money note. Il a découvert qu'un mot en particulier placé sur une certaine note avait un effet d'enfer. Échangé avec Stéphane Venn pendant l'écriture de ma biographie de René Claude fut chaque fois pour moi une leçon sur la création de la chanson. Les paroles ne sont pas un texte, m'a-t-il dit un matin à l'hôtel Saint-Paul, entre deux gorgées de café. Elles sont un phénomène acoustique, au même titre que les notes. Une chanson, c'est quelque chose de non figuratif. Le vieux bougre avait tellement raison. Quand j'écoute certaines chansons aujourd'hui, je me demande où est la communion entre le texte et la musique. C'est ce qu'il a continué de faire avec Emmanuel, Isabelle Pierre et d'autres. Même s'il était devenu fonctionnaire à la ville de Montréal, la création de chansons continuait d'être au cœur de sa vie. Stéphane Venn fut l'un des plus grands mélodistes de sa génération, mais on oublie de dire qu'il a aussi été un grand poète. Luc Plamondon en était conscient et cela le stressait quand il a pris la relève auprès de René Claude. Je vous invite à écouter « Quand le temps tournera au beau », qui a été brillamment utilisé dans la série « Tu m'aimes-tu » après une insupportable scène de violence conjugale. Un sommet d'émotion. Et puis, il y a l'incomparable « Vivre doucement » sur un arioso de Bach. Stéphane Venn m'a raconté que ce fut le texte le plus difficile à écrire et celui dont il était le plus fier. Vivre doucement, passer d'un jour au suivant, avec infiniment de grâce comme le vent, vivre appuyé sur l'air. Je l'écoute au moment où j'écris ces lignes, et j'ai les yeux pleins d'eau. Parmi les films cultes que j'aime revoir au moins une fois par année, je casse souvent les oreilles de mes amis avec ça, il y a « Seul ou avec d'autres », réalisé en 1961 par une bande de jeunes frondeurs qui fréquentaient l'Université de Montréal. Ses rêveurs étaient Denis Arcand, Denis Héroux et Stéphane Venn. On y voit le fougueux Marc Lorando avec ses futurs cyniques Marcel Saint-Germain, André Dubois et Serge Grenier, de même que Marie-Josée Raymond, conjointe et fidèle partenaire de Claude Fournier, et Mireille Dansereau. Le légendaire Guy Rocher y fait même une apparition. C'est un document unique. Ce film, présenté à Cannes, a annoncé une révolution. Stéphane Venn en faisait partie. Les artistes québécois ont longtemps imité leurs cousins français, mais un jour, ils ont senti le besoin de se prendre en main. C'est alors que Leclerc, Vigneault, Léveillé, Clémence, Ferland, Lévesque et les autres sont arrivés. Et puis, il y a eu une génération qui a dit qu'il fallait arrêter de copier nos voisins américains et qu'il fallait créer un temps nouveau. Stéphane Venn a pris la tête du convoi. C'est de cela qu'il faut se souvenir. C'était notre sonneur de mots, un texte de Mario Girard, paru le 18 janvier 2025 dans La Presse.
Valoriser la littérature jeunesse francophone, un texte de Delphine Godefroy, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Comment gère-t-on une bibliothèque francophone hors du Québec? Delphine Godefroy, qui dirige celle du Centre culturel francophone de Vancouver, nous invite dans son quotidien, où sa passion pour la littérature jeunesse en français s'exprime pleinement. Plongée dans son univers, où la richesse de la francophonie canadienne est à l'honneur. Le Centre culturel francophone de Vancouver. Ce qui m'a tout de suite attirée au Centre culturel francophone de Vancouver, c'est la diversité des activités et services en français qu'il offre à l'ensemble de la population de la métropole. Le français étant en minorité linguistique en Colombie-Britannique, cette programmation permet aux participants et participantes de se connecter à la communauté francophone et de développer un sentiment d'appartenance. De plus, je dois dire que je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Entre l'accueil des visiteurs et visiteuses au quotidien, le bon fonctionnement de la bibliothèque, les projets en tout genre et les inscriptions aux différentes activités, mes journées sont bien chargées. Je suis aussi responsable de trier les donations de livres que nous recevons. En effet, dans la section adulte de la bibliothèque, on retrouve uniquement des livres d'auteurs et d'autrices francophones. Les autres livres offerts, les traductions par exemple, sont plutôt envoyés à notre librairie de seconde main. La bibliothèque du centre. Ce qui m'anime le plus dans mon travail concerne la bibliothèque jeunesse. Depuis ma petite enfance, les albums jeunesse ont tenu une place très importante dans ma vie. C'est d'ailleurs en découvrant la variété des livres jeunesse dans un salon de l'éducation en Belgique que j'ai commencé des études pour devenir institutrice au primaire. Pouvoir donner accès aux enfants du Grand Vancouver à des livres récents en français constitue donc une des tâches qui me tient le plus à cœur. En tant que gestionnaire de la médiathèque, je suis aussi responsable des différents projets qui la concernent. Dès mon arrivée dans l'équipe, j'ai d'ailleurs proposé un nouveau concept, vendre les livres de seconde main de notre librairie à prix libre pour acheter avec ces sommes de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque jeunesse. En effet, il nous semblait important de pouvoir proposer aux jeunes des ouvrages modernes avec des thématiques actuelles, ce que nous ne retrouvions pas toujours dans nos donations. Et ce projet est une belle réussite, puisqu'en l'espace d'un an, nous avons pu acheter plus de 100 nouveaux livres adressés aux 0 à 18 ans. Ce souffle de renouveau à la bibliothèque jeunesse attire de plus en plus de familles francophones et francophiles pour lire et emprunter des livres. Thématique, thème du mois et boîte surprise. Si la plupart de nos livres sont rangés par genre et par âge, nous avons également une section qui rassemble différents ouvrages sur certaines thématiques qui nous tiennent à cœur, les émotions, la connaissance de soi et des autres, le genre et la sexualité, les Premières Nations, le deuil, l'écologie, la différence, etc. Nous conseillons régulièrement des livres parmi ces thématiques aux parents qui cherchent un support en français pour aider et éduquer leurs enfants. Chaque mois, nous mettons également en place notre thème du mois. Nous le centrons tantôt sur l'œuvre d'un auteur ou d'une autrice, tantôt sur des activités saisonnières, des sujets d'actualité ou d'autres thématiques amusantes et intéressantes. L'hiver dernier, j'ai aussi lancé le projet des boîtes surprises. À certaines périodes de l'année, les enfants peuvent trouver par hasard dans la bibliothèque une boîte surprise scellée qui contient 4 ou 5 livres et des surprises, des jeux, des idées de bricolage et parfois même des friandises destinées à une certaine tranche d'âge. Des indices sont collés dessus pour en deviner le thème, mais les enfants doivent emprunter la boîte pour savoir exactement ce qu'elle contient. Inutile de dire qu'ils adorent ça. C'était « Valoriser la littérature jeunesse francophone », un texte de Delphine Godefroy, paru le 5 février 2024 dans le magazine « Les libraires ».